d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en temps universel du lundi 1er avril 2019. Raissa Girondin et Eric Manirakiza à la présentation. Voici les titres.
En Algérie, le président Bouteflika va démissionner avant le 28 avril. Une annonce qui intervient après la formation d'un nouveau gouvernement.
En Afrique du Sud, les autorités ont réagi face aux attaques xénophobes qui ont fait 3 morts.
Au Rwanda, dans 6 jours, c'est le début des commémorations du 25e anniversaire du génocide. Coup d'envoi de notre série de reportages.
En 1994, je n'avais que 8 ans. Quand l'avion présidentiel a été abattu, j'ai vu beaucoup de mouvements à la maison.
Au Niger, Mohamed Bazoum sera le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2021. Analyse.
Hier, à l'issue d'un congrès extraordinaire qui a drainé beaucoup de monde, Bazoum a fait plus ou moins, disons, l'unanimité.
Le président de la Cour pénale internationale appelle Washington à adhérer à soutenir la Cour et à adhérer à son traité fondateur, le statut de Rome.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son mandat le 28 avril. C'est ce que vient d'annoncer la présidence de la République dans un communiqué après un 6e vendredi de mobilisation dans les rues du pays. Les précisions avec René Herman Ungbo.
Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant le 28 avril, révèle le communiqué de la présidence sans indiquer une date précise. Mais avant, le chef de l'État prendra des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Quelques centaines de personnes ont manifesté à Alger après l'annonce dimanche soir du nouveau gouvernement. Loin du rajeunissement annoncé dont les nouvelles têtes sont essentiellement de hauts fonctionnaires et qui reste composé pour plus du quart de ministres de la précédente équipe, dont les deux poids lourds, le premier ministre Noureddine Bedoui et le général Ahmed Gaye Salah, numéro 2 dans l'ordre protocolaire. Monsieur Bedoui, un fidèle de Monsieur Bouteflika, a été décrié dès sa nomination le 11 mars en raison de ses précédentes fonctions de zélé ministre de l'Intérieur, peu à même d'inspirer confiance à la contestation. Inamovible chef d'état-major de l'armée depuis 15 ans, le général Gaye Salah conserve son portefeuille de vice-ministre de la Défense qu'il détient depuis 2013, après avoir semblé engager un bras de fer avec l'entourage du président. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, est contesté de manière inédite et massive dans la rue depuis le 22 février.
Le président sud-africain a condamné ce lundi des violences xénophobes qui ont fait 3 morts la semaine dernière dans le pays. Cyril Ramaphosa a appelé ses compatriotes au respect de la loi. Les précisions de John Lyndon.
Les récentes violences au KwaZulu-Natal contre les Malawites et d'autres ressortissants sont particulièrement regrettables, s'est indigné le président sud-africain dans un communiqué. Il n'y a aucune justification pour ces actes criminels. Si des communautés sont mécontentes, leurs doléances doivent être transmises au gouvernement et cela doit se faire dans le cadre de la loi, a-t-il insisté, non sans condamner les violences contre les étrangers en Afrique du Sud. La semaine dernière, en effet, 3 Sud-Africains ont été tués au cours de violences à caractère xénophobe. 2 d'entre eux ont été tués quand un groupe de Sud-Africains a tenté de piller un magasin appartenant à un étranger. Selon la police, le propriétaire a tiré et les a tués. Une 3e personne s'est tuée en tombant d'un toit au moment des violences. Cyril Ramaphosa a souligné le rôle important des ressortissants étrangers et celui de la circulation croissante des gens, des biens et des services entre les différents pays dans le développement de l'Afrique du Sud. Ce lundi, la ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Police et des diplomates de plusieurs pays africains se sont réunis en urgence à Pretoria pour discuter de cette crise, ceci à 1 mois et demi des élections législatives.
John Lyndon. Au Tchad, l'opposition a annoncé par un communiqué qu'elle suspend sa participation au processus électoral et demande la révision des décrets portant désignation des membres du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La mise en place de la CENI et la désignation de son président ne respectent ni la loi ni le consensus exigé, a noté Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir a qualifié de légitimes les demandes des manifestants qui se rassemblent depuis plus de 3 mois. Il a cependant affirmé qu'elles étaient exprimées illégalement, causant selon lui plusieurs décès. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. L'ONG Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts.
Le point sur le crash du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines. Le rapport préliminaire sur l'accident qui a fait 157 morts le 10 mars au sud-est d'Addis Abeba est attendu probablement cette semaine. C'est ce qu'a indiqué le ministère éthiopien du transport qui en est en charge des investigations. N'est-ce pas, Morgane Guiriec?
Il n'est pas encore établi si ce rapport préliminaire sera immédiatement rendu public ou s'il sera transmis seulement aux autorités. Les boîtes noires de l'avion ont été envoyées en France au bureau français d'enquête et d'analyse qui travaille avec les enquêteurs américains et éthiopiens pour déterminer les causes de ce crash où des citoyens de 35 nationalités ont trouvé la mort. Les autorités éthiopiennes ont déjà dit qu'il y avait des similarités claires entre le crash du vol ET-302 et celui du vol 610 de Lion Air et qui a fait 189 morts le 29 octobre au large de l'Indonésie. Le 29 mars, l'AFP avait appris auprès d'une source proche du dossier que le système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans le crash du 737 MAX 8 de Lion Air, était également activé dans l'appareil d'Ethiopian Airlines, peu avant que l'avion ne pique du nez et s'écrase.
Au Nigeria, des dizaines de milliers d'internautes ont dénoncé la mort de Kolade Johnson, jeune homme abattu par la police dimanche. Ils appellent à la fin des violences policières répandues dans le pays. Kola Johnson a été tué par une balle perdue tirée par la police nigériane alors qu'il regardait un match de football en plein après-midi dans la capitale économique de Lagos. Ce lundi, des dizaines de milliers de messages d'hommage ou de colère se sont succédés sur les réseaux sociaux après la diffusion virale d'une vidéo montrant son corps.
En France, Sibeth Ndiaye est devenue la nouvelle porte-parole du gouvernement français. Elle a remercié le Sénégal, son pays de naissance, en prenant aujourd'hui ses fonctions. Une passation de pouvoir faite avec l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, démissionnaire pour briguer la mairie de Paris.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président de la Cour pénale internationale appelle les États-Unis à soutenir la Cour et à adhérer à son traité fondateur, le Statut de Rome, entré en vigueur en juillet 2002 et ratifié par 122 pays. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les victimes passées, présentes et à venir des génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en ont besoin. J'appelle directement les dirigeants des États-Unis à apporter leur soutien à la CPI, a déclaré Chile Eboué Osugi, président de la Cour. Prenant part vendredi à la réunion annuelle de la Société américaine de droit international ici à Washington, il a soutenu que les valeurs et les objectifs de la CPI sont compatibles avec ceux des États-Unis. Washington a refusé d'adhérer au statut de Rome et a signé des accords bilatéraux avec de nombreux pays pour éviter que des Américains puissent être visés par les enquêtes de la CPI. Fatou Bensouda, la procureure de l'institution, a annoncé en 2017 qu'elle allait demander au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumé commis dans le cadre du conflit afghan dans lequel intervient l'armée américaine. En mars, les États-Unis ont annoncé des restrictions de visa pour tenter d'empêcher toute enquête de l'institution contre des militaires américains. Le statut de Rome autorise le procureur à déclencher ses propres enquêtes sans permission des juges, à la condition qu'elles impliquent au moins un pays membre, et c'est le cas de l'Afghanistan.
Yacouba Ouédraogo, le chef de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, demande à l'Allemagne, en tant que membre de l'OTAN, d'augmenter ses dépenses militaires. Monsieur Stoltenberg s'exprimait à la veille d'une réunion à Washington à l'occasion des 70 ans de l'OTAN. Ce partage du fardeau qui provoque des tensions avec les États-Unis de Donald Trump devrait de nouveau être évoqué. Les États-Unis ont dépensé en 2018 près de 650 milliards de dollars en matière de défense, contre 250 milliards pour tous les pays européens de l'OTAN, selon l'Institut international d'études stratégique.
Un haut responsable de la Banque Centrale Européenne a déclaré aujourd'hui qu'un Brexit sans accord pourrait plonger les marchés financiers dans la tourmente. Les cours actuels n'intègrent pas ce scénario du pire. Devant le Parlement européen, Luis de Guindos a parlé des remous pouvant impliquer les taux de change, les marchés actions ou les écarts de rendement entre prêts obligataires.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a essuyé un revers inédit en 16 ans de pouvoir. Les résultats partiels d'élections municipales tenu la veille, indiquant que son parti s'acheminait vers une défaite à Istanbul après avoir perdu un quart.
Le Parlement néo-zélandais examine cette semaine un durcissement des lois sur les armes dans la foulée du carnage dans les mosquées de Christchurch. Cette réforme fait consensus jusque dans les rangs du lobby des propriétaires d'armes à feu.
Les coupures de courant se prolongent au Venezuela alors que le pays est déjà durement frappé par une profonde crise économique. À l'origine, le mauvais état des infrastructures électriques, le manque cruel d'investissement et de maintenance.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanette Sylvanie Talani.
À compter d'aujourd'hui, la Sierra Leone interdit pour un mois la pêche industrielle dans ses eaux afin de reconstituer les stocks de poissons. Selon la ministre de la Pêche, Emma Koua Diallo, les entreprises doivent non seulement cesser toute activité, mais aussi éviter d'exporter tout poisson du 1er au 30 avril. Elles devront plutôt stocker en chambre froide des poissons de toutes sortes afin d'éviter la pénurie et les hausses de prix sur le marché. La pêche illégale représente environ 30% des prises des flottes étrangères en Sierra Leone. En Côte d'Ivoire, les travaux du port d'Abidjan d'un coût de 1 100 milliards de francs CFA vont s'achever en août de cette année. Dès 2020, cette structure pourra accueillir tous les grands navires qui fréquentent les côtes africaines, y compris ceux transportant 10 000 conteneurs contre 3 500 auparavant. Ce terminal sera le plus grand d'Afrique de l'Ouest qui rivalisera avec ceux de Tanger au Maroc et de Durban en Afrique du Sud. Construit par les Chinois, le port d'Abidjan devrait être géré par un consortium formé par les Français Bolloré, Bouygues et le Danois Maersk. Terminons cette minute éco avec la banque africaine EcoBank qui vient d'injecter 64 millions de dollars dans sa filiale nigériane après avoir adopté il y a quelques mois un taux de change du marché de 364 naira pour 1 dollar, ce qui est différent du taux de change officiel du Nigeria de 306 naira pour 1 dollar.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Coup dur pour Achraf Hakimi et Dortmund, le Maroc retient son souffle.
Oui, l'international marocain de 20 ans, prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, sera privé du duel samedi à l'Allianz Arena et va même manquer les 7 derniers matchs de Bundesliga à cause d'un os cassé à son pied droit. Il va être opéré à Madrid, a précisé le club. Achraf Hakimi est sorti en cours du match contre Wolfsburg alors qu'il était entré en jeu pour remplacer le Français Abdou Diallo, également blessé. Une mauvaise nouvelle pour les Lions de l'Atlas qui espèrent toutefois un incertain retour de leur prodige sur les pelouses avant le début de la CAN Égypte 2019.
Al Ahly remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball.
Oui, le club égyptien était opposé à Carthage de la Tunisie, soit l'affiche de la finale de 2018. Et cette fois-ci encore, ce sont les Égyptiennes qui se sont imposées par 3-7-1. Al Ahly établit ainsi un record avec son 10e trophée dans la compétition. La 3e place est revenue aux Kenyanes de Pipeline, dominatrice des Algériennes de JSP par 3-7-0. L'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des clubs champions avait démarré depuis le 14 mars dernier.
En NBA, Golden State humilie Charlotte et respire.
Oui, les Warriors ont repris leur aise au sommet de la conférence Ouest à la faveur de leur démonstration face à Charlotte 137-90 et de la défaite de leur grand rival Denver, surpris à domicile par Washington 95-90. Pour Charlotte, cette défaite la plus lourde de la saison l'éloigne sans doute définitivement des playoffs. La franchise de Caroline du Nord, propriété du légendaire Michael Jordan, est dixième et accuse 3 victoires de retard sur Miami, avec seulement 6 matchs de saison régulière encore à disputer.
Et tennis, Félix Ogé Aliassim, invité au Master de Madrid.
Et oui, la nouvelle pépite du tennis canadien, 18 ans et demi finaliste à Miami, a été invité à participer au Masters 1000 de Madrid qui aura lieu du 5 au 12 mai prochain. Félix Ogé Aliassim, aujourd'hui classé au 33e rang mondial, n'était pas assez bien classé au moment de la publication de la liste d'entrée du tournoi, diffusée la semaine dernière. Le jeune Canadien n'aura pas besoin de passer par les qualifications comme à Miami, où il a atteint les demi-finales et accédera directement au tableau principal. La première wildcard sur les quatre qui seront décernés pour le tournoi madrilène a été attribuée à l'Espagnol David Ferrer qui, à 37 ans, mettra fin à sa carrière à cette occasion.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Poursuite de notre série sur le 25e anniversaire du génocide au Rwanda, notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, a recueilli le témoignage de Sixbert Wigilimana, jeune banquier de 33 ans. Il avait 8 ans au moment du génocide, mais aujourd'hui a pardonné à ceux qui ont tué son père et sa mère. Il se dit résolument optimiste quant à l'avenir du Rwanda et de l'Afrique.
En 1994, je n'avais que 8 ans. Quand l'avion présidentiel a été abattu, j'ai vu beaucoup de mouvements à la maison, beaucoup de gestes, mais je ne parvenais pas à savoir exactement ce qui se passe. On nous avait interdit de jouer, on nous avait interdit de circuler dans toutes les chambres, et on nous demandait seulement de rester dans une seule chambre. Le lendemain, les Inerahamwe avaient déjà attaqué à la maison. On a pu sauter le mur pour aller chez les voisins. Parce qu'on était une fratrie de 7 enfants. Une partie est allée chez les voisins pour se cacher. Et nous, on est partis encore chez d'autres voisins. Ils ont continué à tuer et tuer beaucoup de gens. Finalement, on apprendra que nos parents ont été tués avec un enfant là où ils étaient cachés. Un de mes frères, qui connaissait déjà les petites ruelles, a attendu la nuit pour nous amener là où il y avait de la sécurité. Il y avait un blanc qui était dans un des orphelinats qu'on appelle le centre mémorial Gisimba, et c'est là où on nous a amenés. Les Inerahamwe viendront plus tard apprendre que dans cet orphelinat, il n'y a pas que des enfants, que même les adultes se sont réfugiés là-bas. C'est là où les problèmes commencent.
Ils vont attaquer l'orphelinat ?
Ils ont voulu attaquer l'orphelinat, mais grâce à ce monsieur, à ce blanc-là, je ne me rappelle pas son nom. Seulement, mon seul souvenir, je me rappelle qu'il travaillait dans une ONG qui s'appelle ADRA, qui fournissait de l'eau potable. Il a sauvé beaucoup de gens. Grâce à ses connaissances et à ses contacts, il a pu nous évacuer à la cathédrale Saint-Michel, c'est au centre-ville, et c'était gardé. À la cathédrale Saint-Michel, on est resté là-bas jusqu'à ce que les soldats du FPR prennent Kigali. Le camp Kigali, la ville de Kigali a été prise. Même si j'étais petit, je l'ai vu directement sur le visage des gens. Les gens, ils souriaient, ils étaient contents. Notre tante maternelle nous a récupérés. Après, bien sûr, l'État a mis à notre disposition une institution qui devait couvrir nos frais de scolarité, le Minerval et tout le reste.
Vous avez fini vos études en quoi?
J'ai fini mes études dans les finances. Je suis un banquier, je suis marié avec un enfant. Je suis à la banque commerciale.
25 ans après, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il a pardonné?
J'ai eu de la chance, j'étais encore petit. J'ai 33 ans. C'est aujourd'hui, à cet âge-ci, que je me rappelle et j'ai la nostalgie de mes parents. Mais tout compte fait, je vois que j'ai certains frères et certaines sœurs. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Il y en a d'autres qui ont trop souffert plus que moi. Moi, je crois que je les ai pardonnés. Puisque si vous regardez aussi, vous trouverez des gens, même des Hutus qui ont sauvé des gens. Il y a des Hutus qui ont sauvé des gens. Ma chance, c'est que j'étais encore petit. J'ai la nostalgie de mes parents, c'est vrai. Mais ce qui est arrivé dans ce pays, je ne suis pas le seul. Il y en a ceux qui ont connu pire. Mais j'ai pardonné.
Marié, qui a une fille, banquier. Est-ce qu'on peut dire qu'il se considère comme un homme heureux maintenant?
Je suis très heureux. J'étais petit pendant le génocide. Mais je crois que avoir aujourd'hui une femme et un enfant, avoir ma famille, ça vient combler ce vide de mes parents.
Témoignage recueilli à Kigali par notre envoyé spécial Idriss Fall.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Plus d'une semaine après le massacre d'Ogossagou dans le centre du Mali, qui a fait plus de 130 morts, des enquêteurs nationaux et internationaux sont dans la région de Mopti. Leur objectif est de faire la lumière sur ces violences attribuées à une milice d'Ogon qui a démenti toute implication. Pour analyse, Abdourahmane Dia joint à Dakar l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali, Alioune.
C'est très important qu'on puisse identifier les véritables responsables de ce massacre parce que c'est extrêmement grave et effectivement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que vraiment ces crimes atroce et effroyable ne reste pas impuni. Ça serait un message très fort envoyé aux responsables et à tous ceux qui effectivement sont dans des groupes ou dans des communautés ou dans des milices armées, vraiment ne soient tentés de recommencer ce qui s'est passé.
Justement, le drame d'Ogossagou semble avoir attiré l'attention de la communauté internationale et de l'opinion internationale. Qu'attendez-vous maintenant des autorités maliennes?
Écoutez, je pense que le grand problème que nous avons avec les autorités maliennes est, en dépit effectivement des efforts réels qu'ils sont en train d'entreprendre pour renforcer leur justice et leur donner des capacités, le problème, c'est l'impunité, justement, des crimes, et surtout les crimes internationaux qui sont commis, qui peuvent être commis à la fois par les FAMA, crimes aussi qui peuvent être commis aussi par les forces en présence, ça peut être la MINUSMA, ça peut être également aussi les milices armées. Et bien sûr, je passe sous silence les crimes commis également par les djihadistes. Donc c'est cela le problème. Le problème de l'impunité, c'est un problème sérieux et c'est un problème qu'il faut adresser avec courage et pour vraiment envoyer un message très clair effectivement à toutes les forces qui sont en présence.
Et en tant qu'expert indépendant des Nations Unies sur le Mali, quel doit être justement le travail des Nations Unies, de la MINUSMA, la mission sur place, que certains accusent de ne pas justement faire assez pour protéger les civils?
La MINUSMA est une force de maintien de la paix. Et leur mandat, effectivement, ce n'est pas de faire la guerre contre le terrorisme. Il est évident qu'effectivement, dans le contexte malien, ça peut ne pas être toujours un avantage, puis il y a des inconvénients.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer le mandat de la MINUSMA alors?
Mais de toute façon, il y a un débat sur cette question, mais la MINUSMA est extrêmement utile au Mali. Si effectivement les gens sont tentés d'enlever la MINUSMA, ça va être la catastrophe, pas seulement pour le Mali, mais pour la sous-région.
C'était Alioune Tine, expert indépendant de l'ONU sur le Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Niger, Mohamed Bazoum, le ministre de l'Intérieur, a été investi hier candidat à la présidentielle de 2021 pour le PNDS, le parti au pouvoir. L'actuel président Mahamadou Issoufou ne se représentera pas. Pour une analyse, Claire Morin-Gibour a joint le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur, Soumana Idrissa Maïga.
Il a été adoubé, il faut le dire, dans la douleur par le président de la République. Il en a fait son dauphin putatif parce que il faut rappeler qu'à l'intérieur du PNDS, il y avait un autre pointe du régime qui voulait être aussi candidat putatif ou héritier putatif du président Issoufou Mahamadou. Il s'agissait de l'ancien ministre des Finances. Avait fini par son éviction du gouvernement du fait qu'il n'avait pas obéi aux injonctions du président de la République qui avait porté son choix sur l'actuel président du parti, Bazoum Mohamed. Donc voilà comment la chose avait commencé. Finalement, tout le monde est rentré dans les rangs. Donc Bazoum a fait plus ou moins, disons, l'unanimité. En tout cas, hier, à l'issue d'un congrès extraordinaire qui a drainé beaucoup de monde, il a été adoubé par les 8 régions du pays. Et à ce titre, il a été désigné comme le candidat du parti de PNDSTR à la présidentielle de 2021.
Y a-t-il eu des réactions suite à cette investiture?
Ça n'intéresse pas grand monde. Les liens entre les politiques et les Nigériens lambda sont distendus, pour ne pas dire totalement coupés. Bon, il ne faut pas perdre de vue aussi que c'est la deuxième candidature annoncée à l'intérieur de la majorité présidentielle qui va conduire fatalement à fragiliser le candidat du principal parti de pouvoir, à savoir Bazoum Mohamed. Maintenant, est-ce qu'ils vont œuvrer, bien essayer de faire pression pour que d'autres candidatures n'émergent pas au sein de cette mouvance présidentielle? L'avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, toute nouvelle candidature ne peut conduire à affaiblir le candidat du PNDSTR à la présidentielle de 2021, qui est en l'occurrence Bazoum Mohamed.
Quelle a été la réaction de l'opposition?
Pour l'instant, l'opposition n'a pas pu ses mots. L'opposition laisse faire les jeux. Il faut dire que dans ce pays, depuis quelque temps, l'opposition au régime, on est presque à l'année zéro d'une quelconque opposition. Oui, non seulement l'opposition ne donne pas de la voix, elle est quasi inexistante. Peut-être que dans les semaines ou les jours à venir, l'opposition aura à se dessiner. Pour l'instant, je n'ai pas entendu une réaction quelconque officielle de l'opposition. Malgré le fait que même les partis qui sont dans la majorité ne s'accordent pas avec le principal parti au pouvoir sur le code électoral, qui divise énormément même les partis au sein de la majorité présidentielle.
Soumana Idrissa Maïga, directeur de publication du quotidien L'Enquêteur, il était joint à Niamey.
Et les conséquences du cyclone tropical Idai en Afrique australe, la vie et les moyens de subsistance des agriculteurs et des pêcheurs sont gravement menacés, les communautés du Mozambique étant particulièrement touchées. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, demande 10 millions de dollars pour garder les animaux en vie, réhabiliter les terres endommagées et redémarrer la production. Morgan Guiriec a joint Patrick Jackson, chef de l'équipe programmation et division des urgences et de la résilience à la FAO.
On peut avoir une idée de plus en plus précise de l'étendue des dégâts à mesure que les eaux se retirent. À ce stade, la majeure partie des pertes attendues dans les provinces de Manica et de Sofala représente habituellement près de 25% de la population céréalière nationale. On peut s'attendre à des pertes très importantes, à un impact sur les troupeaux. On anticipe aussi un impact très important sur les comités de pêcheurs qui ont perdu non seulement leur équipement, mais on a aussi un grand nombre d'infrastructures qui sont affectées.
Quelles pourraient être les conséquences pour la sécurité alimentaire du pays?
Il est encore un peu trop tôt pour mesurer l'impact sur la sécurité alimentaire pour le pays d'une façon précise, mais on peut estimer qu'on pourrait avoir 1,8 million de personnes qui souffraient déjà d'une grave insécurité alimentaire et qui donc, de par le cyclone, vont être dans une situation encore plus dramatique.
Donc la FAO demande une somme initiale de 19 millions de dollars pour soutenir les personnes les plus touchées. Comment comptez-vous utiliser ces fonds?
On a trois grands domaines d'intervention. La relance du secteur agricole avec pour objectif la saison qui là va bientôt commencer. Distribution de semences, tomates, oignons, choux, potirons, haricots et les outils nécessaires pour très rapidement relancer cette production. On a aussi comme objectif de sauver les animaux encore en vie car sauver les animaux encore en vie coûtera beaucoup moins cher que de les remplacer. Donc série de vaccinations, à distribution d'aliments. Et puis, on a comme troisième cible la restauration des capacités de pêche et fournir aux pêcheurs qui ont été affectés le matériel qui a été perdu et commencer à relancer aussi la réhabilitation des infrastructures qui ont été détruites.
Donc avec le changement climatique, les catastrophes de ce type vont probablement se multiplier et s'aggraver. Existe-t-il des mesures qui pourraient être prises en amont pour mieux protéger ces communautés?
Des cultures cultures à maturation plus rapide qui auraient peut-être permis de très rapidement de récolter plus rapidement les récoltes qui ont là été perdues. On peut aussi imaginer toute une série d'interventions pour mettre à l'abri les animaux, pour éviter ou réduire l'impact du cyclone sur les infrastructures des pêcheurs.
Patrick Jackson de la division des urgences et de la résilience à la FAO.
Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde de GLS, Georges et Léonard Sagnot. À la présentation, Raissa Gironda et Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. À tout à l'heure.
VOA Afrique, les infos.